J'ai réfléchi aujourd'hui, enfin pour ce culte, j'ai plein de messages qui sont rodés, je n'ai pas besoin de les préparer, je peux sortir le message et puis venir et puis amener un truc qui est bien construit, je pense, et les gens vont dire « Waouh, il a bien parlé ». Bravo. Et aujourd'hui, je me disais « Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, à mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et j'ai reçu tellement d'informations que je me suis dit, on va y passer la journée, la nuit. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Et j'avais trois questions, mais j'ai trois questions à vous poser ou que le Seigneur vous invite à vous poser. Mais je pense qu'on va peut-être réussir à en aborder la première partie de la première. Première question, c'est de quelle nature est ma foi ? De quelle nature est ma foi ? Il y a deux sortes de foi. Il y en a une qui est vaine. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 2, nous dit qu'il y a deux sortes de foi. Il y a une foi qui est vaine, stérile, qui est morte, qui ne sert à rien. Et il y a une foi qui est vivante, qui est puissante, qui est agissante. De quelle nature est ma foi ? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'était, est-ce que je marche selon l'esprit ou est-ce que je marche selon la chair ? C'est une question qui vaut la peine de se poser parce que marcher selon la chair nous conduit à la mort. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vivrez. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, on sait ce que l'on choisirait, mais est-ce que je marche selon l'esprit, est-ce que je marche selon la chair ? Et la troisième question, c'est dans quelle mesure suis-je réellement libre en Jésus-Christ ? Moi, je suis en train de terminer un troisième livre qui s'appelle « Libéré ». Et ce livre met le focus sur la puissance de liberté qu'il y a dans l'Évangile, sur le fait que Jésus, il vient me sauver. C'est mon sauveur ou mon sauveteur. C'est celui qui vient me sortir de mes prisons pour m'amener dans sa liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté. Et il ajoute, demeurez ferme, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Et puis les versets 31 et 32 de Jean 8, qui sont deux de mes versets favoris. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus. De un, vous êtes vraiment mes disciples. Donc si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous avez le choix. Soit vous n'êtes pas vraiment mes disciples, soit vous n'êtes vraiment pas mes disciples. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Je suis la vérité. Je suis la parole de Dieu et la vérité. Jésus est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité, elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Et qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est cet état intérieur. Nous sommes dans un pays libre, nous sommes libres. Nous sommes libres de faire bien des choses. On n'est pas libre de tout faire. Il y a des règles, il y a des choses que... On est libre, je suis libre de faire le fou sur la route, mais je peux m'exposer à des conséquences, pénibles. Mais la liberté intérieure, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne vais pas vous demander, je ne vais pas faire un lever de main, j'ai déjà choisi la question qu'on allait... abordé ce matin, de quelle nature est votre foi ? Et j'aimerais lire avec vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'épître de Jacques, chapitre 2. J'aimerais vous lire ça, ce court texte, Jacques chapitre 2, les versets 14 à 20, où l'apôtre nous dit ceci. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Cette foi peut-elle le sauver? C'est intéressant, hein? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi est morte en elle-même. Mais alors quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres ». On entend ça dans le monde. Hein? Moi, j'ai pas besoin de ta foi. J'ai pas besoin de ta foi. Moi, j'ai les œuvres. Moi, je fais les cartons du cœur, je fais les restos du cœur, je fais. J'ai pas besoin de ta foi. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres. La foi, c'est comme l'amour. L'amour, ça n'existe pas. L'amour, montre-moi l'amour. Ça n'existe pas. En tant que tel, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. On est d'accord avec ça. C'est à travers les actes que l'amour se révèle. La foi, c'est la même chose. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et le verset 19, il est interpellant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, tu as raison. Mais les démons aussi le croient. Les démons ont la foi. Ils croient en Dieu. Ils y croient encore plus que nous parce qu'ils le connaissent un peu mieux. Ils ont un peu plus la crainte peut-être que nous, je pense. Et ensuite, je ne vais pas lire, mais si quand même, le verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel ?» Et ça, c'est intéressant parce que ça nous définit un peu quelles sont les œuvres de la foi. Parce qu'ici, dans le texte que nous avons lu, il parle, la foi se montre, se démontre à travers les œuvres. Mais quelles œuvres? Est-ce que la foi se démontre ou plutôt, comment Abraham a-t-il démontré sa foi? Est-ce qu'à l'époque, il a créé les cartons du cœur en Palestine? Ou je ne sais rien. Comment a-t-il démontré sa foi? Est-ce que vous avez une idée? C'est par son obéissance qu'Abraham a démontré sa foi. Les œuvres sans lesquelles la foi est morte, c'est pas de faire des bonnes actions. C'est bien, tu fais des bonnes actions, continue, c'est super, c'est important. Mais ce qui démontre réellement ta foi, c'est l'obéissance. Et l'obéissance à quoi ? À la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. On y revient. Je peux prêcher sur tous les thèmes. Je reviens toujours à cela, à l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham a obéi. Il avait 75 ans. Il était guère plus jeune que toi, mon frère. 75 ans et Dieu lui dit... Quitte ta famille, quitte tes amis, ta sécurité, ta zone de confort, ton pays, et pars. Et Abraham dit, mais je pars où? Ben dans le pays que je te montrerai. Imagine, qui c'est qui aurait 75 ans? Tu es plus jeune, mon frère, mais Et imagine-toi que voilà, tout à coup, tu arrives demain chez ton épouse et tu dis, écoute, on va tout vendre et on va partir. Et elle va te dire, amen, mon Seigneur, et on va où? Et tu dis, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, on vend tout, voilà. On vend tout, demain on a tout vendu, on n'a plus rien, on a donné aux pauvres, on n'a plus rien, et on part. Mais dans quelle direction? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ma sœur serait super enthousiaste. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le coronavirus, il y a eu quelque chose là. Abraham a obéi et il est parti et en route, le Seigneur lui a montré. C'est flingué ce truc, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur lui donne une promesse de descendance, enfin vous connaissez cette histoire, et quand son enfant arrive, quand il est à peu près ado ou pré-ado, Dieu dit, tu vas me le sacrifier. Et Abraham obéit. Quand tu lis le texte, et Abraham se leva de bon matin, sella son âne et partit en direction du lieu que l'Éternel lui avait montré pour immoler son fils. Il a obéi. Et ça, mes amis, c'est la clé. De quelle nature est ma foi? Est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui est Ésaïe 48, verset 18. Où Dieu dit à son peuple, et Dieu te dit aujourd'hui, « Oh, oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Est-ce que vous connaissez ce verset, vous connaissez la suite? C'est incroyable. Écoutez bien, « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » J'aime ça, moi. Ton bonheur comme les flots de la mer, des vagues de bonheur qui te submergeraient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Des vagues de coronavirus qui nous submergent. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Est-ce que Dieu désire que nous soyons heureux? Est-ce qu'il se plaît à ce que nous soyons mal fichus? J'ai un frère qui arrive chez nous dimanche passé. Et ce frère, il est très engagé au niveau de la prostitution dans la région. Il va visiter, Jocelyne était avec lui pour aller visiter des salons de prostitution cette semaine, où il contacte les filles qui sont là, et il a déjà réussi à en sortir plusieurs de ces salons, et c'est avec lui, à travers lui, que je vais vous présenter tout à l'heure une pétition à signer pour envoyer à la préfète du Jura bernois pour essayer d'empêcher l'ouverture d'un bar de prostitution à Crémines dans le Jura bernois. Il y a déjà un même lieu à Crémines et des chères personnes venues d'Albanie, en lien avec ce qu'on appelle la mafia albanaise, très certainement parce que ça sent la mafia, toute cette histoire-là, veulent ouvrir un second lieu de prostitution dans ce village de 500 habitants, où juste à côté, au village d'à côté, il y en a encore un autre, et puis il y en a des autres à Moutier, donc c'est la région de Moutier, c'est bientôt le Pigalle du Jura bernois. Et on va essayer de s'opposer à cela. Et cet ami arrive chez nous dimanche passé, et puis il arrive comme ça, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que... Alors il s'est fait opérer du dos, il s'est fait opérer des cordes vocales, il a eu une embolie pulmonaire, il a eu une jambe qui va plus, il a le dos qui était bloqué. J'ai dit, mais Jean-Pierre, mais comment ça? J'ai dit, mais on va prier pour toi. Puis j'ai dit, mais est-ce que tu tu crois que le Seigneur veut te guérir ?» Il me dit, « Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, tu sais. Comment peux-tu le dire ? Comment peux-tu être sûr de la volonté de Dieu ?» Et j'ai dit, « Tu penses que toi qui es un guerrier, tu vas au combat, tu penses que le Seigneur envoie des malfoutus au combat ? Et que le Seigneur se plaît à te voir au combat comme ça ?» Ben non, mais enfin, quand il le voudra, ben, s'il le veut, il va me guérir. J'ai dit, Jean-Pierre, je crois que ce que tu me dis, ça contredit la parole de Dieu. Jésus, quand des gens venaient vers lui, il disait, que veux-tu que je te fasse ? Un aveugle arrive, « Seigneur, aie pitié de moi, que veux-tu que je te fasse ?»« Ben Seigneur, que je recouvre la vue !» Il a dit, ben, il n'a pas dit, si peut-être, si tu pouvais, que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Voyant leur foi, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et on a parlé de cela avec notre cher ami Jean-Pierre, l'autre dimanche, on a parlé une demi-heure de cela, j'ai dit, mais regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole. Il avait tellement peur de demander à Dieu quelque chose que Dieu aurait peut-être pas l'idée de lui donner ou pas l'idée de lui donner maintenant. On a parlé un moment et après j'ai dit, mais est-ce que tu es d'accord qu'on fasse ce que, avec notre petite foi, vous savez, dans la parole de Dieu, il dit qu'il faut une petite foi pour déplacer une grande montagne. Si tu avais de la foi comme un grain de moutarde, il ne faut pas une grande, il faut une toute petite. Tu dirais à cette montagne, tu dirais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, Seigneur, est-ce que par hasard, si on pouvait te demander, s'il te plaît, est-ce que tu ne voudrais pas déplacer la montagne ? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on prie ? Et Dieu dit, si tu as la foi, pas beaucoup, tout petit grain de moutarde, si j'ai un grain de sénevé entre les doigts, tu ne le vois même pas. Moi, je le vois à peine, tellement c'est petit. Tu diras à cette montagne. Et on a réussi à convaincre Jean-Pierre et on a prié. Une fois, est-ce que ça va mieux ? Non, ça ne va pas mieux. J'ai dit, tu sais, Jésus, dans une certaine situation, il a dû s'y reprendre à deux fois. Même Jésus, quand il a prié pour un aveugle, il s'est pris à deux fois. Alors, on va encore prier. Et encore prier. Au bout de la troisième fois, il me semble que... Je dois dire que, ben j'ai dit, t'as pas besoin de le dire, je le vois, t'es comme ça avant et maintenant t'es comme ça. Et on l'a appelé hier soir et il disait, alors je dois quand même dire que, en tout cas, c'est pas moins bien. Hein. Et alors, ben c'est même beaucoup mieux. Incroyable, qu'il te soit fait selon ta foi. Mes amis, ce matin, j'aimerais juste vous interpeller. La foi se démontre à travers notre obéissance à la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi, obéir à la parole de Dieu ? Chacun d'entre nous, nous sommes confrontés à diverses attaques de l'ennemi. L'ennemi attaque comment ? Est-ce que vous pouvez m'aider là-dedans ? Comment est-ce que l'ennemi attaque ? De façon concrète, dans chacune de vos vies. Si vous me dites que vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, c'est que vous n'êtes pas de la même planète. Comment est-ce que l'ennemi attaque ? À travers nos pensées. Et ça, c'est ce qu'on aurait eu dans la seconde question, marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair. Quand on marche selon la chair, c'est qu'on marche selon les circonstances et selon ce qui est charnel. La chair, c'est le domaine de l'âme, qu'on appelle le cœur aussi. La chair, ce sont le domaine de nos sentiments, de nos pensées, de nos émotions, de notre intelligence. C'est tout ce qui est charnel. Charnel, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est tout ce qui vient de tout ce qui est de l'humain. Et l'ennemi travaille là-dedans. Et l'ennemi, à travers nos pensées, il y a plusieurs armes avec lesquelles il travaille, plusieurs armes avec lesquelles il nous tire dessus. Est-ce que vous arrivez à les définir? Citez-moi une. Le doute, absolument, le doute. Il y en a une arme que Dieu connaissait tellement cela qu'il a mis 366 versets qui démontrent ça dans la parole de Dieu. La peur, la crainte, la peur. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui n'ont jamais peur? Je veux dire, moi, j'ai jamais peur, moi. Rien ne... Je suis inébranlable, un roc. Est-ce qu'on ne fait pas face à des pensées de peur? Moi, si j'écoute mes pensées, mais pardonnez-moi, mais je vais pas le dire. Mais voilà, je peux pas écouter mes pensées. Je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Quand j'ai foi, je m'appuie sur ce que Dieu a dit. 366 fois, quelqu'un les a comptés dans la parole de Dieu. Dieu nous dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est la vérité. Ne crains rien. Et pourtant, combien de fois on est dans la peur? Combien de fois on est dans la peur, dans le souci, les inquiétudes. Je vous parlais de la situation avec notre fils tout à l'heure, mais la peur nous rongeait. Mais on disait, parce qu'on voyait la situation, les circonstances ne pouvaient que nous faire peur. On a eu tant de témoignages de gens qui, comme lui, qui avaient les problèmes qu'il a eus et qui se sont suicidés, qui ont mal fini, qui ont fini en asile psychiatrique, irrécupérable. Il y avait toutes sortes de situations autour pour nous faire peur. Et si on écoutait nos sentiments, on était tétanisés. Mais à un moment, on s'est accroché à la parole de Dieu. La foi, c'est ça. Je m'accroche à la parole de Dieu. Et je ne suis pas en train d'être hypocrite. Quand j'ai peur, je ne suis pas en train d'essayer de faire de la pensée positive ou de me mettre en lotus et puis de faire je ne sais pas quoi. Mais de m'accrocher à la parole de Dieu. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne crains rien, tu es avec moi. Merci Seigneur. Et commencer de le louer pour... s'accrocher à la parole de Dieu. Le souci, les inquiétudes. Quand on lit dans la parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Moi, j'ai lu ça pendant des décennies, et quand j'étais dans l'inquiétude, je me disais, ah, facile à dire. Parce que je le lisais comme un conseil. Comme un bon conseil que je ne pouvais pas suivre. Moi, je m'inquiète. Excuse-moi, Paul, mais moi, je m'inquiète. Mais si tu prends cela comme un ordre, comme Dieu qui te dit, oh, fiston, oh, gamin, t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. À ce moment-là, tu n'es plus en train de dire, Seigneur, comment est-ce que je fais? Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci parce que tu gardes mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Tu gardes mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et tu entres dans la louange. Tu entres dans les promesses de Dieu. Tu proclames les promesses de Dieu. Et ta situation ne va peut-être pas changer. Mais tu vas regarder à la solution et non plus au problème. J'ai pris conscience un jour que même nos prières peuvent accentuer notre problème. Vous avez déjà percuté là-dessus? Quand vous êtes dans la prière et vous dites « Oh Seigneur, tu vois, oh je ne sais pas comment ça va aller, j'ai plus de travail, je ne m'en sors pas Seigneur, ça ne va pas Seigneur. » Les démons qui sont autour, ils disent « Amen à votre prière. » Amen, vas-y, continue mon vieux, continue. Tu fais quoi? Tu es en train d'engraisser ton problème, de nourrir ton problème. Oh Seigneur, tu es dans la plainte, tu es dans les lamentations. Tu fais ce que le peuple hébreu a fait quand ils sont arrivés à Mara. Ils se sont plaints. Oh, ben on était mieux, c'était mieux avant. Hein, Alors, il ne s'agit pas de nier le problème, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de s'accrocher à ce que Dieu dit. Seigneur, il sait que tu es découragé, il sait que tu es malade, il sait que tu n'en peux plus, il sait tout ça. Seigneur, je te fais confiance, tu es mon berger. Quand on prononçait le verset que j'ai cité tout à l'heure, qui nous a aidés dans la situation de notre fils, on l'a fait en pleurant. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. En lui, mon cœur se comble. J'ai de l'allégresse dans le cœur. On priait ça, on pleurait. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et on pleurait parce qu'on était désespéré. Notre cœur était désespéré. Et on n'était pas en train d'être hypocrite. Mais on disait, je crois, j'ai de l'allégresse dans le cœur parce que tu me donnes l'allégresse. Et même si la situation ne devait pas s'arranger, alors tu restes mon Dieu. Et je proclamerai cette promesse jusqu'au bout du bout du bout du bout. Ça, c'est la foi. Il est déjà l'heure. Laissez-moi juste encore l'accusation. L'accusation. On était en entretien cette semaine avec quelqu'un qui a subi l'a conduit dans des choses qui sont juste sordides. Et il se sent tellement sale. Et on lui demande, est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Bien sûr, 1000 fois, mais je suis retombé. Chaque fois, j'ose plus demander pardon à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu dit? Combien de fois pardonneras-tu à ton frère? Alors, il ne connaissait pas trop bien la parole. Au moins 7 fois, je pense. Ouais, ça va un peu plus loin. 70 fois 7 fois. 7 fois 7, 49. 490. Est-ce que tu es retombé plus que 490 fois alors que tu avais juré au Seigneur que tu ne retomberais plus? Et il me dit, non, je ne suis pas là. Ah ben, j'ai dit, t'es bon. Tu es encore du bon côté. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout en lui, son âme, son cœur, ses pensées, ses sentiments l'accusaient. T'es un dégueulasse, t'es honteux, tu sens mauvais. Ça, c'est ce que Satan lui dit à travers ses pensées. On lui disait, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Ça prend combien de temps? La parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. J'ai un chant pour la Sainte-Seine, mais j'aimerais que... Je ne sais pas si j'ai réussi à vous communiquer la pensée de Dieu ce matin, mais je reviens à ce verset tout à l'heure. Mon peuple, oh mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, tu ne serais pas dans la peur, tu ne serais pas dans l'inquiétude. Ou tu saurais, je vais dire ça autrement, Tu saurais gérer tes peurs. Tu saurais gérer tes inquiétudes. Tu saurais tordre le cou à la culpabilité. Tu saurais tordre le cou au menteur. Si tu étais attentif, si tu t'accrochais à ma parole. J'ai un chant pour la Sainte-Seine. Est-ce que je le fais maintenant ou je le fais pendant que tu distribues peut-être? Peut-être. Pendant. J'aimerais juste qu'on prenne juste 30 secondes avant que tu viennes pour distribuer le pain. Par la bouche d'un homme. Et est-ce qu'on peut laisser juste quelques instants pour que le Seigneur puisse, par son esprit, faire descendre ce que vous avez entendu dans vos têtes, dans vos pensées, faire descendre ça dans vos cœurs. Si tu étais attentif à mes commandements, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, mon enfant, car je suis ton Dieu, je suis ton Père, je suis ton Papa. Je suis ton Sauveur. J'ai tout porté à la croix. Tes souffrances, tes douleurs, tes péchés, tes manquements, tes mauvaises actions, j'ai tout porté, j'ai payé tes dettes. Appuie-toi sur ma parole. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.